Avoir remplacé Paul Raphaël pendant un bon deux semaines, Jonathan Bernard est de retour sur le terrain.
Remplacer Paul Raphaël pendant deux semaines et Jeff la camisole blanchette pendant une toute petite journée.
Une journée, aussi. C'est vrai. Jonathan Bernard est donc de retour sur le terrain et ce matin, il y avait une annonce de la Ville de Québec concernant un partenariat avec le CHU de Québec. C'est quoi, juste?
Ouais, voilà. Ben, c'est pas encore totalement signé, mais en 2016, l'administration Labeaume nous avait parlé d'un projet qu'il chérissait, soit de fournir de la vapeur provenant de l'incinérateur de la Ville de Québec au CHU de Québec, au nouveau méga-hôpital de l'Enfant Jésus, pour chauffer, climatiser et produire de l'électricité.
Oh boy!
Donc, avoir une centrale, ce que l'on appelle trigénération, qui permettrait de faire ça grâce à de la vapeur qui actuellement est envoyée directement dans les airs.
Mais l'incinérateur, ça, c'est pour les vidanges?
Oui.
Parce que moi, les vidanges, je les congèle, mais j'ai encore jamais sacré ma poubelle à 400 dans le four. Ça, c'est jamais arrivé.
C'est un petit peu plus chaud que 400, je te dirais.
L'incinérateur, ouais, puis ça sent pas un peu le petit, petit dépotoir. Ça va sentir le dépotoir dans l'hôpital.
Non? La vapeur qui est produite actuellement, elle est utilisée par deux usines, soit la White Birch et l'usine Glacine Canada.
OK.
Sauf que là, le défi est un défi davantage technique parce que le nouvel hôpital se situe à 2,2 km.
OK, fait qu'on va faire un pipeline de vapeur?
C'est en plein ça.
Ouais.
Hey, celui-là, il est acceptable.
Un instant.
C'est pas un oléoduc, c'est un vapoduc.
Non, mais c'est parce que là, si tu dis pipeline, parce que pipeline, techniquement, ça veut dire ligne de tuyau. Ça veut dire, bon, mais dis pas pipeline trop fort, parce que là, de la façon que tu m'en parlais, Joe, il semblerait que le projet fait pas mal l'unanimité auprès de toutes les instances puis toutes les organisations. Mais si tu dis pipeline, il va se trouver quelqu'un quelque part, un défenseur du bord rayé, pour dire non, non, non! Un défenseur des vers de terre qui va dire le tuyau dans la terre, là, non!
Tu sais, j'en ai couvert des projets à la Ville de Québec dans les dix dernières années. Parce et je dois vous dire que, habituellement, j'ai assez le pif pour savoir s'il va y avoir une levée de bouclier ou non. Dans ce cas-ci, je la vois difficilement. Bien que des citoyens, en 2017, aient déjà dit « Ouais, mais est-ce qu'il va falloir brûler davantage de vidanges pour être en mesure de fournir le CHU de Québec? » Ben, sachez qu'actuellement, là, même si on fournissait le CHU de Québec, il resterait 35 % de vapeur inutilisée.
OK.
Donc, on s'entend-tu qu'on brûlera pas plus de vidanges pour fournir?
Puis, est-ce que l'incinérateur est suffisant pour chauffer tout le nouvel hôpital?
Oui, amplement.
C'est ça, comme c'est pour ça
ils vont en rester. Après avoir fourni la White Birch, Glacine et l'hôpital, ils vont en rester.
Okay.
Et ça pourrait même servir, il y a une zone d'innovation, là, la zone d'innovation littorale qui doit se construire dans ce secteur-là.
Oui.
C'est un des projets du maire Labeaume qui nous présentera notamment demain l'état d'avancement. Eh bien, sachez qu'il pourrait servir du restant de la vapeur pour faire ça, mais il n'a pas voulu rentrer dans les détails quand je l'ai questionné. Et on est revenu tout sur la question davantage enfouissement versus incinération. Donc, voici ce qu'en pense le maire.
L'enfouissement n'a plus la cote, là. Ce qu'on pensait être une solution jadis, l'enfouissement n'a plus la cote. Et l'incinération demeure, quand vous comparez les deux, si on est capable de valoriser l'output, c'est-à-dire la vapeur, c'est ça qu'il faut faire actuellement. Parce que enfouir, moi, j'ai toujours pensé que ça avait des conséquences à long terme, puis je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, l'incinération, dans la mesure où il y a un minimum d'impact sur l'environnement et la solution. Ça a viré de bord, cette affaire-là.
Ben, pourquoi pas?
Et
à un moment donné, il faut faire quelque chose avec les vidanges de toute façon.
Oui.
Si en plus, on peut prendre un produit résiduel du processus d'incinération puis l'utiliser pour en faire de l'énergie, pourquoi pas?
Et ce matin, c'était aussi une opération de relations publiques parce qu'il y avait le maire qui était présent, il y avait le PDG du CHU, il y avait également des ressources techniques du CHU de Québec et de la Ville de Québec, il y avait le directeur de la santé publique et le directeur de l'éco-chair de l'UQAC, Claude Villeneuve, qui était présent parce qu'il a été invité à scruter le dossier pour voir si c'était intéressant ou pas. Et il dit que c'est le meilleur des scénarios si on combine ça à la biométhanisation et à l'amélioration de l'incinérateur. Donc, c'est ce qu'il a confirmé. Et à propos du docteur François Desbiens, je vous inviterai à écouter ce que lui pense de ce projet-là.
Que le CHU de Québec, l'Université Laval, pour l'Enfant Jésus, cesse d'émettre des contaminants reliés aux combustibles fossiles, c'est du bonbon. Excusez l'expression, c'est fantastique pour améliorer la qualité de l'air et des problèmes de santé qu'on pourrait observer dans la communauté d'Imoilou.
Parce qu'actuellement, la centrale qui est construite du côté du nouvel hôpital de l'Enfant Jésus, elle fonctionne au gaz naturel.
Okay.
Donc, brûler du gaz naturel pour faire de la vapeur, ça coûte de quoi? et ça produit des GES. Ouais. Donc, on dit qu'à terme, on réduirait la production de GES du nouvel hôpital de 95%, soit l'équivalent de 2400 voitures que l'on retirerait de la route. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté et on deviendrait presque carboneutre. Pas tout à fait, mais disons que ce serait l'hôpital qui aurait l'empreinte la moins grande au Québec en fonction de sa superficie, de sa grandeur, là, parce que c'est un très gros hôpital.
OK.
Maintenant, vous voulez certainement savoir combien il en coûtera.
Ben là, parce que c'est trop beau pour être vrai. Là.
Il
y a un os, là, non? Ça coûte combien?
En fait, on évalue qu'il en coûterait 40 millions de dollars. Initialement, en 2016, on disait 15 millions. Là, vous allez dire, hein, comment ça que la facture a jumpé comme ça? En fait, le 15 millions, c'était juste pour la conduite de 2,2 km pour se rendre au CHU. Ça n'incluait pas la centrale. Donc, si on inclut la centrale, tout ça ensemble fait un total de 40 millions. Sauf que là, on dit, on ne veut pas être seul à payer. Il y a des programmes gouvernementaux d'aide pour des cas comme ceux-là, comme l'ancien fonds vert, par exemple. Ça peut-tu servir à ça? Fait que là, la ville espère aller chercher 29 millions de dollars et investirait 11 millions dans l'aventure. Je vous inviterai à écouter ce que le maire avait à dire justement à propos des subventions.
Si ce projet-là n'obtient pas les aides financières planifiées par les gouvernements, je ne sais pas quel projet au Québec va recevoir des aides financières. Alors, je n'ai aucun doute sur la capacité d'aller chercher le maximum d'aides financières. Quand vous regardez le descriptif de ce qui existe comme programme de subvention, on est dedans à 110%.
De la confiance.
Hein? Parfait. Donc, on sort les petits calepins. On note ça. 2016, 15 millions juste la conduite. 40 ouais. millions prix total en 2019. Donc, en 2025-2026, quand on va vraiment être dans le cœur du projet, à combien on va être, là? 80, 100, 120... Je note 40 dans mon petit calepin, à côté, dans la colonne 2019 pour le projet.
Mais quand on investit, on pense toujours retour sur investissement. Ça va prendre combien de temps avant de rentabiliser ça? Et ce que l'on dit, c'est que si la ville avance 11 millions grâce aux économies que l'on évalue à 3 millions par année, donc des économies en coûts énergétiques pour le CHU de Québec et des économies d'un million pour la ville pour l'eau qu'elle traite actuellement qui sert à faire de la vapeur du côté du CHU, ben, on dit qu'avec 3 millions par année, en 3-4 ans, on serait capable d'avoir un retour sur investissement et ensuite de ça, les économies seraient séparées entre la ville et le CHU qui pourrait le réinvestir dans les services qu'elle donne actuellement, qu'il donne actuellement aux patients.
OK.
Ah bon.
On va essayer de win-win. Que le montage financier soit respecté, c'est tout ce qui reste à espérer là-dedans. 40 millions, tout semble correct dans le montage. Va voir comment ça va s'exécuter.
Et juste pour terminer, vous dire que même si on n'obtient pas le 29 millions, le maire est prêt à aller de l'avant.
Alors, s'il fallait qu'on n'ait pas le maximum de subventions, on le fait pareil. Là. C'est juste que notre payback va prendre un peu plus de temps, mais un peu plus de temps. Tout ce qui est en 5 et 10 ans est très rapide pour nous autres. Pour, de toute façon, pour toute entreprise qui investit un payback de 5-10 ans, c'est fantastique. Là.
Voilà.
Dernièrement, Joe, avant de te laisser partir, je veux que tu nous dises un mot sur... j'ai lu un article ce matin dans le Journal de Québec qui concerne la compagnie Aecon qui vient de s'inscrire là, au registre des lobbyistes pour aller discuter avec le maire là, puis les autres instances pour le projet de tramway.
Oui.
Eux, ils regardent ça puis ils se disent « Non, c'est un beau projet, ça. Nous autres, on s'impliquera. » Ils sont déjà dans le REM à Montréal. Pourquoi s'impliquer là-dedans dans la conception et compagnie?
Et cette firme-là s'est impliquée également dans d'autres projets de trains légers sur rail. Mais vous dire que le maire, ce matin, a voulu faire une mise au point. On lui avait même pas posé de questions. Il est arrivé avec ça. Il dit « Là, il y a un nouveau projet de loi. » Là, il dit « Un bill omnibus. » Là, il dit 26. Il dit de mémoire le numéro. Et comment ça va fonctionner? C'est que les appels d'offres, ce sera différent de ce que l'on connaît actuellement.
Ouais.
Actuellement, comment ça fonctionne? C'est au plus bas soumissionnaire. Ouais. Et ça fonctionne en une seule étape. Donc là, les gens arrivent avec leur proposition et voici le coup. Maintenant, ça va fonctionner en deux étapes. Il va y avoir une première ouverture d'enveloppe, ce que l'on appelle l'ouverture d'enveloppe technique. Et là, par la suite, la ville, dans ce cas-ci, le bureau de projet, aura la possibilité d'aller discuter avec les firmes ou les consortiums pour savoir est-ce qu'il y aurait des améliorations, des bonifications qu'on pourrait apporter au projet, peut-être pour que ça coûte moins cher ou des choses que, par exemple, on aurait pu avoir oublié pour éviter que ça devienne des extras. Donc, il va y avoir cette première étape-là. Et ensuite de ça, l'ouverture des enveloppes financières. Et dans un cas où toutes les soumissions seraient supérieures à l'estimation de la ville ou du bureau de projet dans ce cas-ci, eh bien, il y aurait possibilité, il va y avoir possibilité pour la ville, le bureau de projet, d'aller discuter avec les firmes pour voir comment on serait capable de faire baisser la facture pour en arriver à quelque chose de convenable.
Au lieu de retourner en appel d'offres, refaire tout le processus.
Ou prendre une soumission qui est beaucoup plus élevée, mais finalement qui aurait pu être bonifiée et qui aurait pu coûter moins cher. Donc, c'est au niveau de la gestion des deniers publics, je pense que c'est intéressant de parler de l'exercice parce que c'est notre argent dont on parle.
C'est quelque chose, c'est un protocole qu'on va observer aussi quand même.
Merci beaucoup, Jonathan.
Au plaisir.